Bonjour et bienvenue dans ce podcast Journalisme de guerre, les coulisses. Je m'appelle Lucie Van Delaine et je vous emmène à la rencontre de 6 journalistes. Tous travaillent pour des rédactions belges et sont partis en Ukraine, à Kiev, Lviv ou Boutcha. Ils ont rendu la parole aux citoyens qui vivent la guerre, mais aujourd'hui, c'est eux qui se dévoilent et révèlent l'arrière du décor.
C'est quoi la réalité d'un journaliste de guerre?
Comment ne pas se laisser envahir par la guerre?
Les journalistes sont-ils influencés?
Et l'info, ils la choisissent comment?
En première ligne.
Sur la guerre en Ukraine, puisque l'armée russe est à l'offensive, ça se situe près de sa frontière, la frontière russo-ukrainienne, dans la région de Kharkiv, avec des prises locales. On va faire le point avec Guillaume Ptak, justement, qui est à Kharkiv. Où en est précisément l'avancée russe, Guillaume?
Alors, selon les informations données par les autorités ukrainiennes, elle aurait été ralentie grâce à l'intervention des soldats ukrainiens. Malheureusement, la situation reste quand même extrêmement tendue. Au total, je crois qu'on a plus de 6000 civils qui ont été évacués des zones les plus à risque. La Russie a quand même repris au moins une dizaine de villages situés dans ce qu'on appelle la zone grise, donc situés entre les deux positions défensives ukrainiennes et positions défensives russes.
Guillaume Ptak, tout droit sorti des études, s'installe en Ukraine en 2021. Le journaliste indépendant travaille sur des thématiques économiques, sociales et environnementales, mais l'Ukraine, ça n'intéresse pas les médias belges, français, allemands ou américains. Et les temps semblent durs. C'était sans compter le 24 février 2022. Guillaume Ptak se retrouve sous les bombes à Kiev. Changement de cap, de décor et de quotidien, le journaliste freelance n'a plus le choix. Il devient correspondant de guerre.
L'essentiel de mon temps est divisé entre Kiev, donc là où je réside, la capitale ukrainienne, et ensuite j'effectue généralement des voyages qui vont de 2 semaines et qui sont allés jusqu'à 2 mois dans différentes régions du pays. Pour l'essentiel, là où je travaille habituellement, ce sont les régions de Kharkiv, de Donetsk et occasionnellement de Zaporijja, donc surtout cette espèce d'axe nord-est, est, sud-est de l'Ukraine, puisque c'est là où se concentre... On se concentre l'essentiel des combats, c'est là où il y a la ligne de front qui fait plus de 930 km, je crois. Et donc dans ces moments-là, je travaille avec des collègues qui sont aussi freelance. On loue une voiture qui, généralement, j'espère qu'elle est ensuite remboursée par l'un des médias pour lesquels je travaille. Gérer toute la partie logistique, réservation de voiture, réservation d'hôtel, préparation des sujets, prise de contact avec des interlocuteurs au préalable pour s'assurer d'avoir des gens avec qui parler lorsqu'on arrive sur le terrain. Je m'attendais pas à faire ce travail, mais il se trouve que j'y ai pris goût et par conséquent je travaille énormément directement avec des unités. Généralement, ça peut être avec de l'artilleur, ça peut être avec des pilotes de drones dans les tranchées ou autres. Et par contre, ça demande évidemment un effort logistique plus important puisque l'armée et l'administration militaire. Si on se plaint de nos administrations gouvernementales en France et en Belgique, il faut imaginer ce que peut être l'administration de l'armée ukrainienne, avec les questions de sécurité, les officiers de presse avec lesquels il faut gérer. Ensuite, il y a 3 niveaux de hiérarchie supplémentaires par lesquels il faut passer. Donc beaucoup de temps est juste passé au téléphone, à envoyer des emails, à envoyer des messages et à relancer en permanence les gens, parce que malheureusement, que ce soit un soldat ukrainien ou un élu d'un conseil départemental dans les Bouches-du-Rhône, les gens ne sont pas foutus de répondre aux journalistes. Donc ça, malheureusement, ça fait partie du quotidien. Et ensuite, arrivé sur place, je ne prends pas de photos. D'ailleurs, je pense que la qualité de mon Instagram laisse voir que je suis clairement pas un photojournaliste. Donc moi, je pose les questions. Vu que je parle le russe et l'ukrainien, j'ai mon bloc-notes, j'ai mon enregistreur vocal. Et j'essaie de noter aussi des éléments d'atmosphère qui contribueront à la partie reportage, pour pas que ça soit trop sec. Et puis on essaie de pas se prendre un obus sur la gueule. Voilà, c'est l'essentiel de mon quotidien. Et occasionnellement, comme c'est déjà le cas à 3 reprises ici, j'ai mes fenêtres qui explosent à cause d'un missile balistique russe. Ça aussi, c'est le quotidien du journaliste ici en Ukraine.
En première ligne, Guillaume Ptak travaille pour La Libre Belgique, le Washington Times ou encore Les Échos en France. Pourtant, il est seul, ou presque, pour gérer sa sécurité.
De la sécurité, déjà, c'est l'équipement, c'est la première chose. La deuxième, c'est que de toute façon, on n'a pas les mains entièrement libres dans le Donbass ou dans le sud de l'Ukraine. Vous avez un système de zones. Sur certaines zones, pour s'y rendre, il faut être accompagné automatiquement d'un officier de presse de l'armée ukrainienne, qui généralement a plutôt intérêt, pour des raisons d'optique assez évidentes, à ce que les journalistes qui l'accompagnent ne se fassent pas démembrer par un obus. Donc par conséquent, vous avez une barrière supplémentaire. Après, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut faire Déjà, c'est la guerre. La guerre, par nature, est imprévisible. L'officier de presse ne peut pas prévoir à tout prix. Il peut essayer de vous emmener vers des positions qui sont plus ou moins dangereuses ou autres, mais il y a aussi cette espèce de, même pour eux, cet équilibre permanent à trouver entre le fait d'emmener les journalistes vers quelque chose qui est intéressant à voir, à filmer, à raconter, mais si c'est intéressant, ça comprend généralement un degré de risque supplémentaire. Puisque forcément, si vous vous retrouvez dans une tranchée à 25 km du front, bah déjà, il n'y a pas de tranchée là-bas, mais surtout qu'en fait, il ne va rien se passer, vous allez vous emmerder. Par contre, si vous amenez des soldats directement avec les forces spéciales ukrainiennes lorsqu'ils vont derrière les lignes russes à 3h ou 4h du matin, ça risque d'être un peu plus dangereux. Donc, il y a aussi un énorme travail à faire de préparation par soi-même. C'est regarder des cartes, bien connaître la géographie de la zone. C'est aussi à force d'expérience, c'est échanger avec d'autres journalistes, leur demander où est-ce que tu as travaillé, qu'est-ce que tu as été faire, c'était comment la situation ou autre. C'est se renseigner avec les officiers de presse et avec les contacts que vous avez établis dans les unités à force d'aller travailler. Parce que fatalement, il y a quand même un nombre fini de brigades ou d'unités dans l'armée ukrainienne, donc vous allez vous retrouver, si vous faites ce travail aussi longtemps que je le fais, on va dire ici, on se retrouve à travailler avec les mêmes personnes ou avec les mêmes unités, donc il suffit de passer un coup de fil, comment c'est chez toi, est-ce qu'il y a beaucoup de drones, est-ce qu'il y a beaucoup de bombes aériennes. Essayez d'avoir en tête une sorte de carte un peu synthétique de la situation telle qu'elle existe à tel moment, sachant qu'on ne peut jamais que minimiser les risques, on ne peut pas les réduire totalement.
Dans les tranchées, Guillaume Tak n'est pas libre, ou pas totalement libre. Ce n'est pas un choix, mais plutôt le cocktail entre nécessité et obligation.
Est-ce que je me suis toujours senti libre ? Non. Tout simplement parce que il y a une variété de barrières sur, mettons, il y a un sujet qui te vient en tête, ou tu as lu quelque chose qui t'intéresserait. Et là, ensuite, déjà, il faut déterminer, est-ce qu'il y a un intérêt des médias ? Ça, c'est la première chose. Le journalisme, c'est beau comme concept, machin, la plume dans la plaie, c'est très bien, mais ça nourrit pas son homme. À la fin de la journée, c'est un business, il y a des modèles économiques. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle tu n'es pas libre de tout en tant que journaliste. La seconde, et celle-là, c'est, je parle après le début de l'invasion, c'est les questions tout d'abord sécuritaires. Donc celle-là, c'est celle que j'ai déjà évoquée. Les officiers de presse de l'armée ukrainienne n'ont pas forcément envie que tu te fasses buter, parce que même pour eux, c'est un peu contre-productif. Donc ils vont restreindre ton accès, sachant que c'est l'armée. Et l'armée, dans tous les pays, mais en plus, surtout dans un pays qui a hérité pas mal de l'administration soviétique, c'est parfois absurde. Les ordres sont contradictoires, on te dit que là tu peux y aller, alors que techniquement c'est plus dangereux qu'à tel endroit, et tu le sais que c'est plus dangereux. Mais bon, c'est l'administration militaire, on sait qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre. Et la dernière chose, l'Ukraine, comme tous les pays, et les administrations sécuritaires, donc l'armée, la police, les services de renseignement ou autres, n'ont forcément pas nécessairement envie d'ébruiter des sujets qui mettent en lumière des problèmes de corruption, par exemple, dans l'armée ou autre, qui illustrent des problèmes, par exemple, avec le commandement militaire, ce genre de choses-là. Donc là, il y a aussi une forme de censure, ça m'est arrivé plein de fois, de travailler sur tel ou tel sujet, et puis mon interlocuteur me dit clairement, je peux témoigner, mais je témoignerai anonymement, ou je peux rien dire, ou on ne communique pas sur ce sujet, comme ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. Et il y a même une forme d'autocensure, parce que j'ai travaillé sur des sujets, je travaille actuellement sur un sujet en particulier, où j'ai essayé de me montrer le plus prudent possible dans la manière dont je vais l'aborder, parce que le problème, c'est qu'en Ukraine, pour exercer comme journaliste auprès de l'armée, pour exercer dans les zones proches du front, ça techniquement c'est sur le papier, mais dans les faits, si vous travaillez comme journaliste en Ukraine en ce moment, et que vous voulez faire n'importe quoi, même interviewer le maire de, je sais pas, d'une commune de 2500 habitants, tout à l'ouest de l'Ukraine, le plus loin possible des combats, on va souvent vous demander est-ce que vous êtes accrédité. Par conséquent, ça veut dire que si vous avez par le passé écrit des choses un peu trop critiques sur le gouvernement ukrainien, ou sur l'état ukrainien ou autre, c'est possible que vous fassiez retirer votre accréditation, dans ce cas-là, bon courage pour travailler.
En terrain de guerre, les difficultés et les limites s'additionnent. Aujourd'hui, les ennemis du journaliste sont le temps et la propagande.
Dans la presse écrite, un peu moins, mais généralement dans les médias, il y a le culte de l'immédiateté et le fait que malheureusement, avec les nouvelles technologies, des informations circulent, si ce n'est en temps réel ou presque, et par conséquent, quand quelque chose se produit, et particulièrement un événement, prenons l'exemple d'un missile russe qui s'abat sur un hôpital, oh, parce qu'après tout, c'est pas comme si ça arrivait assez régulièrement ici, donc on est sûr qu'à l'instant où le missile s'abat, au bout de 10 secondes que l'information sera déjà passée sur les réseaux sociaux, et différents acteurs vont immédiatement s'activer, et en plus, et les Russes pour le coup sont particulièrement forts à ça, la technique russe généralement, c'est ce qu'on appelle le fire hose of falsehood. La lance à incendie de fake news, ou la lance à incendie de conneries. Donc leur objectif, là je parle pour les Russes, pour le gouvernement russe, mais c'est une technique qui est employée par plein d'autres acteurs, leur objectif ce n'est pas de te convaincre de leur version des faits, c'est de disséminer une multitude de versions différentes pour qu'au final, pour saper la confiance du lecteur dans les informations qu'il finira par recevoir à terme. Il y a même une sorte de phrase en russe qui est devenue un mème, c'est « «Всё не так однозначно». ». Tout n'est pas si simple. Tout n'est pas si simple qu'il y paraît. C'est devenu un mème de la propagande russe. C'est, comment dire, dès qu'il se passe quelque chose, les Russes nous disent, voilà, tout n'est pas si simple qu'il y paraît. Par conséquent, lorsque tu es un journaliste sur le terrain et que tu es en train de sortir des informations, un truc comme ça, et que tu sais que ta version des faits, quand bien même elle est reliée par quand même, je sais pas, un groupe médiatique qui est important comme les Échos et les Libres de Belgique, elle est déjà en compétition sur le marché de l'information, sur les réseaux sociaux, avec une centaine de théories, pour certaines farfelues, et juste des...
Cette pression, ce stress, cette vie, Guillaume Tak les fouille régulièrement pour continuer à travailler, à lutter, et à rendre la parole à ceux qui vivent la guerre de l'intérieur, tout comme lui.
C'est difficile, évidemment, on ne va pas se le cacher. Lorsque vous vivez dans le pays, que vous vivez au quotidien cette guerre, forcément s'en détacher, c'est un peu difficile. Après, ça vient avec le temps, j'effectue des allers-retours réguliers entre la France et l'Ukraine pour voir ma famille, pour voir mes amis et autres en France. Et j'essaie de m'imposer un rythme de, en gros, 2 mois passés en Ukraine, 1 mois passé en France. Évidemment, c'est pas au jour près, mais essayer de me déconnecter suffisamment et de me garantir un peu de temps et un peu de recul, ne serait-ce que pour pouvoir revenir, disons, recharger et être en mesure de travailler à nouveau, parce que forcément, la fatigue s'accumule. La fatigue psychologique s'accumule, le stress s'accumule, et il y a du coup 2 semaines et demie, comme je le disais, 3 missiles se sont abattus juste de l'autre côté de la rue, j'ai des fenêtres qui ont explosé, et j'étais à l'intérieur de l'appartement lorsque ça s'est produit, ce qui n'était pas le cas les 2 fois précédentes lorsque mes fenêtres ont pété aussi. Et donc le cri d'un missile balistique qui s'abat sur votre, quasiment sur votre toit, c'est pas particulièrement agréable, et donc on a besoin aussi de se retirer de ça et d'évacuer un peu. Le problème, c'est qu'au début de la guerre, lorsque j'ai commencé à faire ça, lorsque je suis rentré en France, ou en tout cas que j'ai quitté l'Ukraine pour les premières fois au début de l'invasion, j'avais un énorme sentiment de culpabilité, puisque je savais que moi j'avais le luxe, le privilège de pouvoir quitter l'Ukraine, c'était pas le cas des Ukrainiens. Eux étaient là. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'est un impératif de santé, en fait, de santé mentale, de santé psychologique, pour le moral, c'est important de, si j'ai le privilège, le luxe, j'en ai discuté avec des amis ukrainiens, ils me disent, déjà tu en fais déjà pas mal en étant ici quasiment en permanence, il faut certainement pas se priver de cette opportunité. Après, bon, bah, malheureusement, la distance, elle est physique, mais psychologiquement, bah, je continue de partager le quotidien de mes amis qui sont ici, puisqu'on est en contact en permanence, j'ai énormément d'amis, j'ai un coloc là en ce moment qui s'appelle Vitaly, un soldat ukrainien de 47 ans, parce qu'en fait on est devenu amis en travaillant ensemble à Chessifiar. Ça veut dire que dans mon quotidien, bah, voilà, mon coloc actuel là, pour les 2 prochains mois, c'est un soldat. Avant-hier, dans l'après-midi, j'étais rendre visite à un ami qui est un médic de la police de Donetsk, qui s'est bouffé 20aine de shrapnel dans le bras lorsqu'un obus russe s'est abattu sur son véhicule, et c'est comme ça que j'ai passé mon après-midi avant-hier. Je suis en contact avec des gens qui vivent dans les... En plus, vu que je bosse souvent dans les villes proches du front, ça veut dire que c'est là où j'établis des contacts, où je me fais des amis, et donc je suis en contact avec des gens qui me disent que bah, hier, mon voisin est mort.
Construire sa vie ailleurs et y prendre racine, c'est le sentiment de Guillaume Tak en Ukraine, et pourtant, sur la ligne de front, il n'est plus toujours le bienvenu.
Par contre, et là, je pense que c'est quelque chose que tous les journalistes ont rencontré en Ukraine qui ont couvert la guerre, qu'ils soient ukrainiens ou étrangers, c'est arrivé énormément de fois de rencontrer de l'hostilité plus ou moins dissimulée dans les villes situées le long de la ligne de front ou directement prises dans les combats. Parce que le nombre de fois où j'ai entendu, vous les journalistes, vous venez, et quelques minutes ou quelques heures après, on nous bombarde. En gros, on attribue à la présence de journalistes la responsabilité du fait que le quartier ou la ville ou l'endroit sont ensuite bombardés. Tout d'abord, ça pose la première question. Ça veut dire que si c'est notre présence qui fait que vous êtes bombardé ensuite, ça pose la question des standards éthiques de l'armée russe qui, donc, entend « Oh, TF1, Bliat, vas-y, balance la bombe ». Ça veut déjà dire que, de base, l'armée russe vise spécifiquement les journalistes. Je n'ai pas besoin de réitérer que c'est évidemment un crime de guerre. Secondo, j'ai entendu cette citation venant de personnes qui habitaient à Tchassifiar. Tchassifiar, c'était une ville de 17 000 habitants. La dernière fois où je me suis rendu, c'était il y a plusieurs mois de ça, il n'y avait déjà plus rien. Il y avait une explosion quasiment toutes les 4 ou 5 secondes. Les Russes balançaient des bombes aériennes de 500 kg dessus. Et il ne restait plus rien de Tchassifiar. Pas un seul immeuble intact dans toute la ville. Une ville de 17 à 20 000 habitants. Pas un seul immeuble intact. Et j'ai eu une grand-mère qui me disait « Oui, mais vous les journalistes, vous venez et après ils nous bombardent. » Et je lui ai répondu « Madame, ils vous bombardent avant qu'on vienne, ils vous bombardent pendant qu'on est là, et ils vous bombardent après. Parce que malheureusement, votre ville est sur la ligne de front, et que les Russes sont en train d'attaquer. » Par conséquent, je lui ai expliqué aussi gentiment que je pouvais l'être, de la manière la plus sympathique, quelle différence, en fait. Notre présence ici ne change strictement rien, vous vous faites bombarder la gueule en permanence. Par conséquent, oui, mais il n'y a pas de lien de cause à effet entre notre présence et autre. Et ensuite, des fois, tu rencontres de l'hostilité de la part de personnes qui sont pro-russes. Parce que dans ces villes situées le long de la ligne de front, par exemple à Bakhmout, ça m'est arrivé de... On était en train de bosser là-bas C'était en janvier 2023. Dans les premiers jours de janvier 2023, il y avait déjà des combats dans les rues de Bakhmout, on entendait des tirs d'armes automatiques. Généralement, c'est pas bon signe. Parce que lorsque tu entends des obus, bon, ça c'est la nature de la guerre. Lorsque tu entends des tirs d'armes automatiques, donc qui sont d'une portée bien plus faible, ça veut dire que les combats sont vraiment très proches. On était dans les rues de Bakhmout. Et lorsqu'on est retourné à la bagnole un moment pour repartir, on avait gardé la voiture et on a vu que quelqu'un a essayé de bloquer notre voiture avec un essayant de foutre un pneu dessous juste pour bloquer la voiture, pour nous empêcher de repartir. La raison, c'est que malheureusement, dans une ville comme Bakhmout, qui faisait, je sais pas, 50, 60 000 habitants, peut-être un peu plus que ça, vous avez peut-être 5% de la population qui est pro-russe, mais ce sont ces 5%-là qui vont rester jusqu'au dernier moment, puisque forcément, eux attendent l'arrivée des Russes comme des libérateurs. Tous les gens qui sont pro-ukrainiens sont déjà partis. Mais donc ça veut dire que les dernières personnes que vous allez rencontrer dans ces villes le long de la ligne de front, certains d'entre eux attendent des Russes. Attendent les Russes comme des libérateurs, et ils vous considèrent, vous, comme journaliste occidental, comme, si ce n'est un ennemi, au moins un allié de leur ennemi, à savoir les Ukrainiens.
Aujourd'hui, Guillaume Tak a 29 ans. En l'espace de 2 ans et demi, il a l'impression d'en avoir vieilli de 10. La guerre change les journalistes, qu'elle soit vécue de près ou de loin. Mais tous désirent continuer à chercher, à interroger et à publier pour que les valeurs démocratiques qui se cachent derrière celles du journalisme soient plus fortes que la guerre. Journalisme de guerre, les coulisses, c'est fini. Je m'appelle Lucie Van Delen et je vous remercie de m'avoir suivi dans ces rencontres inédites. A bientôt pour de nouveaux contenus en coulisses. Un projet réalisé dans le cadre d'un mémoire en journalisme à l'école de journalisme de Louvain-la-Neuve.